Daniel Buren en pharaon. À la galerie Kamel Mennour, il expose actuellement ses nouvelles formes sous le titre Pyramidal, haut relief, travaux in situ et situé 2017. Il y utilise ses bandes, noir et blanc, de la couleur et des miroirs. Le miroir qui, selon lui, rend plus évident dès son utilisation qu'une œuvre quelconque n'est jamais qu'un fragment d'un ensemble. De tout cela, on va parler ensemble, tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, à retrouver sur le fil de vos podcasts.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Peintre et sculpteur de renommée internationale, artiste, il n'aime pas ce mot. Révélé au grand public avec ses deux plateaux, dites les colonnes de Buren, installées au Palais Royal, lion d'or du meilleur pavillon à la Biennale de Venise en 86, artiste excentrique à la Monumenta de 2012, on l'a redécouvert en scénographe pour l'Opéra de Paris avec Daphnis et Chloé il y a 3-4 ans et retrouvé l'an passé à la Fondation Louis Vuitton où il a posé un habit de couleur sur l'enveloppe architecturale de Franck Guéry, l'Observatoire de la Lumière dont la directrice de la Fondation, directrice artistique, Suzanne Paget disait.
Il a fait une participation très importante ici il y a quelques mois et il a désigné quelque chose qui existait et qui nous a rendu visible. Je ne pense pas qu'un discours aurait pu dire ce qu'a dit cette œuvre avec évidence. C'est-à-dire qu'il est parti de ce qui existait. Un bâtiment extraordinaire avec ses verrières très spécifiques et les données implicites de bâtiment qui n'étaient peut-être pas toujours surlignées sont la transparence, l'effet de miroir, l'invention au sens propre de la lumière. Il a travaillé là-dessus et seulement là-dessus, en n'ajoutant rien, aucun discours. Son discours, il était purement visuel. C'est-à-dire, il a posé des films de couleurs plus ses bandes. Pour moi, la clé, elle est dans l'œuvre. Elle n'est pas préalable à celle qu'on voit là. Et à chaque fois, l'œuvre réinvente sa propre clé. C'est de la pensée visuelle.
L'œuvre réinvente sa propre clé, c'est de la pensée visuelle. Bonjour Daniel Buren.
Bonjour.
L'œuvre est un discours en soi, pas besoin de grands discours. Néanmoins, vous avez toujours plaidé tout au long de votre vie pour que l'artiste se réapproprie aussi le discours sur son œuvre. On va y venir, on va commencer par parler de cette exposition qui a commencé à la galerie Kamel Mennour. Sur les murs de la galerie, Daniel Buren, des hauts reliefs, une exploration de l'espace en trois dimensions, prisme, miroir, couleur et les bandes blanches et noires, les vôtres, celles qui font votre patte. Vous combinez dans cet ensemble sensation et jeu avec l'espace. Quelle proposition faites-vous ici? Que donnez-nous, que donnez-vous à voir à nous?
Écoutez, c'est une exposition évidemment très, je pense, très simple. C'est un peu comme un jeu de construction avec des prismes colorés ou non d'ailleurs, en miroir ou non. Qui sont disposés de façon pyramidale avec la tête de la pyramide à l'envers et qui prennent une grande partie de chacun des murs disponibles dans la galerie de Mennour.
Et alors vous dites la forme pyramidale, une forme millénaire depuis l'Égypte des pharaons, mais vous dites pyramidale, pas pyramide. Pourquoi ?
Ah, parce que c'est plutôt dans le sens d'un dessin qui fait penser à une forme géométrique de la pyramide, plutôt que pyramide qui veut vraiment dire quelque chose qui est beaucoup plus formel et beaucoup plus, pas illustratif, mais qui devrait être, si on voulait être très proche, au moins quelque chose qui repose sur sa base et qui soit en trois dimensions. Là, c'est en trois dimensions, mais à cause des éléments qui la constituent, c'est plutôt la forme, puisque c'est mis à l'envers, la forme en V qui fait penser à quelque chose de pyramidal.
Alors si on vous imagine Daniel Buren en pharaon, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quand même une mystique particulière dans cette forme que vous avez choisie, cette forme inversée, sachant que l'élévation effectivement ne se fait pas vers le haut, mais aussi en partie vers le regardeur? Vous dites toujours que l'œuvre n'a pas de forme fixe, qu'elle change de forme.
Oui, enfin, ça dépend un peu des œuvres en question. En l'occurrence, cette série de propositions qui utilisent comme fond, et pas seulement, mais en tout cas comme fond de façon systématique, le miroir, introduit à chaque fois que l'on va le regarder, des choses qui sont totalement étrangères, disons, à l'œuvre, si on veut prendre ce terme comme une chose autonome. Dans la mesure où j'ai toujours dit depuis très très longtemps que ce qui m'intéressait à explorer, c'était qu'est-ce qu'il advient d'une œuvre lorsqu'elle n'est plus autonome, dans la mesure où, pour le dire très vite, l'art occidental se pique d'être autonome, justement. Donc, une œuvre non autonome, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie une œuvre qui vient être, pour certains, polluée, pour d'autres, enrichie, par l'environnement direct ? Donc, le miroir est l'une des possibilités qui fait apparaître cette pollution, entre guillemets, immédiatement, que ce soit dans un appartement, que ce soit dans un musée, dans une galerie, etc. Sans parler, bien sûr, des gens qui vont s'y refléter et qui vont apporter à cette la chose que l'on va voir soi-même, pas forcément directement soi-même, mais d'autres personnes. Donc il y a immédiatement quelque chose qui vient perturber l'œuvre. Et c'est sûr que, non pas un de mes repères, mais quelque chose qui m'avait frappé et que j'ai toujours beaucoup aimé, malgré des hauts et des bas sur plein de choses que j'ai aimées, puis rejetées, et même revenues à des premiers amours. On ne sait pas tellement que dans les magnifiques batailles de Uccello, il y avait l'introduction dans ces batailles, dans ces peintures, de miroirs qui étaient faits sans, certainement avec de l'argent poli, qui donc déjà était un artiste qui devait s'intéresser à ce qui se passait en dehors du tableau, soit en réflexion, soit selon les angles, avec ce qui se passait par rapport au lieu où c'était mis. Donc c'est pas évidemment la seule référence, mais c'est quelque chose qui, je dirais, traîne dans l'art occidental depuis très longtemps.
Pollué, perturbé, avez-vous dit, et s'intéresser à ce qui se passe en dehors du tableau. Le spectateur, le public, le regardeur, il est où pour vous, Daniel Buren ? Est-ce qu'il est aussi un peu le co-auteur de l'œuvre ? Quelle place vous lui réservez dans cette expérience de l'œuvre ?
Moi, je pense que ça aussi, dans toutes les choses que j'ai pu faire, j'ai toujours considéré que celui qui va regarder, non pas, comme disait Duchamp, fait l'œuvre, il en fait une partie, bien sûr, à sa façon, mais en tout cas est essentiel à l'existence de l'œuvre. Donc, d'une certaine façon, ceux qui disent qu'une œuvre existe dès qu'elle est faite, même si c'est seulement l'artiste qui, dans son atelier, a pu la voir, bien sûr qu'on peut admettre cette forme de réflexion, mais pour moi, ce n'est pas juste. Une œuvre n'existe que si une tierce personne commence à la regarder.
Parce qu'il pose sur elle un point de vue aussi ?
Automatiquement. Donc je dirais que le visiteur, le spectateur, le regardeur, appelons-le comme on veut, est essentiel à l'existence de quelque chose qu'on donne à regarder volontairement.
Et ça, parce que vous le savez, c'est aussi avec ce jeu de miroir une manière de l'inclure directement. C'est-à-dire que vous jouez vous-même à travers votre œuvre avec ce regard qu'on va pouvoir poser sur elle.
C'est une des raisons principales de l'utilisation du miroir, que j'utilise aussi un peu comme un... Alors, j'essaye le plus souvent possible que ce ne soit pas comme un miroir dans lequel on se regarde. Bien sûr, c'est difficile d'y échapper totalement. Mais pour moi, c'est surtout un troisième œil. C'est beaucoup plus, si on voulait donner une image, ça ressemble plus, dans la manière où je m'intéresse à l'utiliser, à un rétroviseur dans une voiture. Donc, on voit devant soi et on voit derrière soi. Et ça, c'est un des apports les plus intéressants sur ce que l'on donne à voir, de pouvoir permettre à celui qui regarde d'avoir ce troisième œil qui lui montre quelque chose qui est dans son dos.
Si tant est qu'il regarde son rétroviseur, ce qui est mieux hein, pour avoir son permis de conduire. Là, on n'a pas besoin d'un permis d'art pour aller voir votre exposition, Daniel Buren.
Non, c'est sûr, mais c'est sûr aussi qu'on ne peut pas échapper à voir ce qu'on a dans le dos.
Vous mobilisez aussi la couleur, Daniel Buren, dans cette exposition, dans ces installations. La couleur est un vaste problème, avez-vous dit dans un entretien avec Jérôme Sang, au sujet 2, paru à la fin des années 90 chez Flammarion. La couleur est un vaste problème, il me semble difficile de lui appliquer des règles. Y en a-t-il ? À chaque instant, la couleur doit s'inventer, il n'existe pas de garde-fou. Alors c'est quoi le problème ? Écoutons ce qu'en dit l'historien Michel Pastoureau.
« la couleur, c'est un phénomène culturel, étroitement culturel. Et moi qui suis historien, je crois qu'il faut commencer par l'histoire sociale des couleurs, parce que j'ai l'impression que c'est la société qui fait la couleur. Ça n'est pas la nature, ce n'est pas le couple œil-cerveau. C'est la société, en tout cas les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société et ceux sur lesquels l'historien doit se pencher en premier. Évidemment, un chimiste ou un physicien aurait d'autres idées sur la couleur tout à fait pertinentes. Participe d'ailleurs assez souvent à des colloques pluridisciplinaires sur la couleur avec chimistes, physiciens, peintres, linguistes, sociologues, ethnologues, etc. On est tous contents de se retrouver pour parler de la couleur, mais au bout de 2 minutes, on a compris qu'on parlait pas de la même chose. Il y a 1000 façons de définir la couleur. Est-ce une lumière? Est-ce une matière? Est-ce une perception? Moi, j'ai dans l'idée que, en amont de tout ça, la couleur, c'est d'abord une catégorie au sens d'Aristote et qu'elle n'a pas besoin d'être matérialisée pour exister, ni être vue pour qu'on en parle. Voir les couleurs n'est pas nécessaire pour comprendre, classer, penser la couleur.
C'est quoi le problème? Question posée donc à Michel Pastoureau. Et vous, Daniel Buren, quelle est votre idée de la couleur? Quelle définition lui donnez-vous?
Oh, je suis pas très bon dans les définitions, mais je pense que dans le domaine des arts visuels, la couleur, c'est sans doute pas le seul élément, mais la couleur, pour moi, de façon évidente, c'est la pensée pure. Donc, c'est donc, je pense, d'une importance première. Et bien sûr, à partir de là, ça, ce n'est pas une définition. Et à partir de là, je veux dire, tout est possible. Et on peut dire beaucoup, beaucoup de choses, comme d'ailleurs il l'indique lui-même. Mais je pense surtout que c'est un des rares éléments dans le domaine de la peinture, le domaine même de la sculpture, qui donne quelque chose qu'on ne peut même pas résoudre avec des mots. On ne peut pas la couleur, je pense, à un autre phénomène qui se passe avec la couleur. Quand on regarde un petit peu comment c'est défini dans les dictionnaires, on se rend compte que c'est toujours au bout de 10 couleurs que vous regardez, vous commencez à sourire, voire à vous esclaffer, parce que rien ne vous dit de quoi il s'agit. Et je pense que c'est parce que c'est comme un poisson, ça vous échappe des mains. Et quand vous aurez dit, par exemple, que le rouge, on peut dire que c'est vermillon, etc., vous allez à vermillon et on vous dit que c'est rouge. Donc vous n'êtes pas tellement complètement convaincu par la définition. Et vous avez ça avec toutes les couleurs. Donc on peut s'approcher, on peut parler, mais même si je dis, par exemple, bleu à quelqu'un, je ne sais absolument pas quel bleu cette personne va avoir dans la tête.
Donc si je dis que dans cette installation, vous avez utilisé du bleu, du jaune, du orange, du vert, je ne dis rien.
C'est-à-dire que vous approchez de quelque chose, mais je pense qu'il faut le voir. Et je sais d'avance que ceux qui vont le voir n'auront pas du tout les mêmes, disons, émotions ou sentiments en face de ces couleurs. Donc il n'y a pas on ne peut pas imposer une couleur, on peut toujours peindre une salle tout en noir ou tout en rouge. C'est la plus grande imposition qu'on peut faire, mais on ne saura toujours pas comment chacun va réagir en face de cette chose. Et c'est cette matière même qui va créer, je dirais, quelque chose qui se passe du langage.
Mais vous, le peintre sculpteur, vous la travaillez comment, du coup, votre palette de couleurs? Vous travaillez avec vos yeux, avec votre cerveau, avec votre estomac ou votre cœur?
C'est difficile de vous répondre parce qu'il y a, évidemment, comme c'est toujours très proche de la situation, étant donné que tout mon travail joue là-dessus, les situations étant par définition assez différentes, voire très différentes les unes des autres, l'amorce ou l'utilisation de la couleur va aussi dépendre de ce que je perçois dans cette situation. Donc, le mieux, c'est de donner un exemple. Par exemple, lorsque j'ai utilisé les papiers que je collais, enfin, je fais encore d'ailleurs, mais particulièrement souvent, à la Documenta en 72, j'avais eu comme idée de préparer les murs et de signifier que ces murs sont importants, et de préparer ces murs dans plusieurs sections de l'exposition faite par Harald Zeman, évidemment avec son accord. Donc avant que les gens viennent accrocher leurs œuvres sur ces murs, dans les différentes sections de la Documenta en 72, j'avais, avec les peintres, refait entièrement un mur dans chacune de ces salles. Et ce mur était fait de papier collé blanc, sérigraphié blanc. Donc il y avait deux blancs différents, très discrets l'un de l'autre, qui recouvraient ce mur, assez proche des autres murs qui étaient tout blancs, peints tout bêtement, avant que la salle soit utilisée. Et donc ce que je veux dire, c'est que là, cette couleur, évidemment, a priori, ça aurait pu être blanc et rouge, ça aurait pu être blanc et noir, blanc et bleu, blanc et vert. Mais par définition, étant donné l'exposition de groupe, il est évident que ça, c'était dire d'avance, ça va être absolument impossible à faire, interdit, car le premier artiste qui allait mettre son œuvre dans cette salle aurait dit « Mais attendez, nettoyez-moi la salle, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et donc, je dirais par stratégie, la couleur utilisée ce jour-là était une couleur à peine perceptible qui a permis que chacun des artistes qui a exposé dans ces salles, qui ont exposé dans ces salles, a accroché son ou ses œuvres sur un mur où il y avait déjà, entre guillemets, une œuvre. Et donc la question posée, c'est où est-ce qu'est l'œuvre, quel est le décor et quel est le décoré. Enfin bref, c'est des choses que j'ai souvent travaillées, mais ça c'était la première fois de façon évidente dans une exposition de groupe. Et donc la couleur, elle a été très importante, à peine visible, mais choisie pour ces raisons-là. Et donc pas pour faire, une belle harmonie ou que ce soit percutant ou très joli. C'était très subtil et ça ne pouvait marcher que comme ça.
Dans cette explication, cette petite encyclopédie de la couleur que vous venez de nous donner, Daniel Buren, on ressent aussi l'importance du lieu pour vous, qui a toujours été un élément phare aussi de votre travail, de votre démarche. Dans le titre de l'exposition, il y a d'ailleurs ces deux mots sur lesquels on doit s'arrêter pour comprendre votre démarche, in situ, concept que vous avez forgé pour souligner l'importance aussi du lieu, de l'espace où les œuvres sont présentées, importance du lieu dans la constitution même de l'œuvre. Alors est-ce que cette installation, cette pyramidale au relief, travaux in situ et situés, a été pensée pour la galerie, pour une galerie?
Oui, alors c'est un peu moins directement lié à cet espace que certaines autres œuvres. Mais en même temps, c'est évidemment en vue de cette exposition que j'avais réfléchi à ce type de travail.
Parce que vous avez exposé dans des musées, vous avez exposé dans des galeries, vous avez bien sûr aussi exposé hors les murs, dans la rue, dans des trains, des escaliers, vous avez fait des motifs pour des gilets, on va reparler bientôt de votre scénographie aussi à l'opéra. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur différents espaces. Là, ça a été monté dans un atelier que vous n'avez plus, et ensuite été amené à la galerie, ou comment ça a été pensé?
Ben ça, c'est un travail qui est très très simple, qui est fait à la suite d'un dessin, on pourrait dire presque d'un patron, où je décide des formes et des couleurs aussi, et qui est ensuite fabriqué par des gens qui sont d'ailleurs des amis dans la banlieue de Lyon. Et ces éléments sont tous séparés et ne peuvent exister que mis d'une certaine façon là où ils doivent être mis. Donc quand ils arrivent en pièces détachées, comme un puzzle un petit peu, dans l'espace où on va les montrer, on les met sur le mur. Et d'ailleurs, j'ai dit pour commencer que c'était pyramidal et à l'envers. D'une certaine façon, la pyramide en question, elle est posée sur sa tête. C'était pas du tout l'intention que j'avais quand j'ai pensé à cette exposition. Pour moi, c'était plus banal. C'était la base, était à la base et on montait doucement comme une pyramide. Et je me suis rendu compte, ce qui est essentiel, c'est toujours de voir ce qu'on est en train de faire, même si on l'a déjà un peu préconçu, c'est que mettre ce même travail exactement sur sa base, c'est pas seulement une autre façon de le montrer, c'est que c'est une façon beaucoup moins intéressante de le montrer. Mais je peux même pas l'expliquer. Et donc, comme j'avais dû le faire pour des raisons alors techniques du in situ, au moins par rapport à la pièce qui se trouve dans l'escalier, pour pas gêner les gens qui montent et qui descendent, etc., j'ai tout de suite vu que c'était pas à choisir, on va le faire à la base ou sur la tête, mais qu'en fin de compte, c'est cette position sur la tête qui est de loin la plus intéressante. Je ne vais pas en expliquer plus, mais je suis convaincu de ça, et ça, il fallait le voir pour m'en rendre compte.
Daniel Buren est notre invité jusqu'à 12h30 dans cette grande table du 1er novembre. Quelques notes de Daphnis et Chloé de Ravel, qui a été chorégraphiée par Benjamin Millepied et que vous avez scénographiée, Daniel Buren. France Culture, il est 12h22. Et donc, avec Benjamin Millepied à la chorégraphie, Daniel Buren, et c'était au moment où le ballet a été créé, avec Philippe Jordan à la direction de ce chef-d'œuvre de la musique de Ravel. Ça va être pris, il faut quand même noter, cette création va être prise à partir du 23 février jusqu'en mars 2018 à l'Opéra Bastille, avec cette fois-ci une direction musicale signée Maxime Pascal. C'était une expérience particulière pour vous?
Ah oui, bien entendu. D'abord, je n'avais jamais été en position de travailler directement sur un ballet ou avec une grande scène d'opéra. Donc déjà ça, c'est un peu se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ce qui est évidemment, même si ça fait un petit peu peur, c'est très très vivifiant, très intéressant. Je dois dire aussi, quand on m'a invité à l'époque, Benjamin Millepied n'était pas encore choisi, non pas comme directeur de la danse à l'opéra, mais il n'était même pas choisi comme le chorégraphe. C'est venu juste après, mais c'était Ravel. Et évidemment, j'adore la musique de Ravel, et c'était une chose qui, a priori, me semblait très intéressante à tenter.
Il y a une longue tradition d'écrits d'artistes qui, depuis la Renaissance, était plutôt de l'ordre du traité technique, d'un questionnement sur le quotidien de l'artiste. Et en même temps, il y a cette spécificité des écrits d'artistes des années 60, qui était une manière, dans cette période-là, où il s'agissait quand même d'élargir le champ visuel, d'élargir les conditions d'expérience de l'œuvre, d'élargir aussi les termes du discours, en fait, de prendre en charge et de prendre la parole, et aussi de la reprendre aussi aux critiques d'art, puisque certains, et notamment Buren, considèrent que le critique peut parfois dire n'importe quoi sur l'œuvre. Et donc c'était aussi à la fois pour remettre en cause cette illusion et ce problème pour certains artistes d'être considérés comme mutiques et comme ne s'exprimant que dans l'espace de la pratique plastique. Donc c'était aussi une manière de dire, comme le disait Duchamp d'ailleurs, ou de contredire Duchamp, pas con comme un peintre, mais plutôt de prendre en charge justement cette dimension qui peut être théorique, qui peut être critique, puisqu'il s'agissait aussi parfois de s'adresser directement aux critiques d'art, mais qui peut aussi prendre en charge des questionnements d'ordre philosophique et des problématiques qui sont d'ordre esthétique.
Voilà, cette voix qui semble venue de nulle part, c'est en fait celle de Sally Bowne, la philosophe qui a écrit, et on la recevait pour cet essai, Les mots et les œuvres, un ouvrage paru au Seuil à partir de vous, notamment. La philosophe revient sur l'artiste comme un producteur de discours, et notamment à travers ses écrits, question à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, Daniel Buren. Dans l'exposition, vous présentez aussi un film de plus de 7 heures, à contre-temps, à perte de vue, qui revient sur un demi-siècle de réalisation à travers des photos, des entretiens, des souvenirs, des textes théoriques. C'est un catalogue vivant, sans début ni fin. C'est une anti-rétrospective pour vous, Daniel Buren?
Oui, enfin c'est surtout... sans début ni fin. En fait, il y a un début, mais il n'y a pas encore une fin. et c'est surtout après de nombreuses tentatives faites et expérimentées, surtout dans des conférences que j'ai fait de très nombreuses fois un peu partout dans le monde. J'ai été surpris dès le début et de plus en plus avec le temps que ces conférences semblaient vraiment intéresser les gens auxquels je m'adressais et que surtout, même si c'était sur des gens en particulier quand même dans le monde de l'art ou des amateurs qui connaissaient bien, etc., qu'on connaissait très 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 mal ce que je faisais. Et donc,
oui, vous le dites, hein, pardon, impossible d'avoir tout vu de mon travail, il aurait fallu être partout où j'allais et c'est souvent détruit. Parce que c'est vrai que vous vous êtes aussi toujours un peu battu contre cette dimension pérenne de l'art, en acceptant aussi la destruction de vos œuvres. Vous faites un plaidoyer récurrent hein, sur l'éphémère en art, mais vous les photographiez aussi, vos œuvres. Il y a quand même, on le sent quelque part pour vous, le désir de garder une trace. Et ces photos, on les retrouve dans ce film qui raconte 50 ans de pratique quand même.
Oui, oui, c'est exact. Enfin, la décision de pouvoir avoir une trace, c'était surtout pour pas tomber dans l'autre piège qui est, à mon avis, beaucoup plus grave, de rendre les choses mythiques. Ah oui, c'était fantastique, vous l'avez pas vu, ben voilà, c'était comme ci, comme ça, mais on voit rien. Donc je voulais tout de suite, dès le début, où c'était encore plus systématique que tout était détruit, que quelque chose reste comme une image. C'est pour ça que j'appelle toutes ces images photos souvenirs. C'est pas plus et pas moins que la photo de ses parents, la photo de ses enfants. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça remplace ni les parents, ni les enfants. Et ces photos ne remplacent jamais les œuvres dont elles sont le fruit. Et donc, ce film permet de donner avec des films, avec des photos, avec un méli-mélo de choses très différentes que j'ai pu faire depuis plus de 50 ans, une espèce de vue rétrospective, ça on peut employer ce mot, alors que dans mon travail, la rétrospective au sens même un peu lâche du terme, puisque c'est très rare qu'une rétrospective montre toutes les œuvres d'un artiste quelconque, mais même un morceau de rétrospective dans mon travail est quasiment impossible. Et donc ça permet, et ça permettra, je pense, à l'occasion d'autres expositions, de donner un aperçu beaucoup plus, pas attrayant, mais beaucoup plus vivant, qu'un livre ne peut le faire dans le cadre d'une exposition future de galerie ou de musée.
Et on terminera presque là-dessus, Daniel Buren. Je voulais vous demander, Sophie Kahl explique toute la genèse de son travail par sa relation avec ses parents et surtout avec son père. Vous dédiez cette exposition en souvenir de mon père, 11 octobre 1907. Pourquoi ? C'était une figure bienveillante, protectrice aussi ?
Ça l'a sans doute été, mais c'était surtout la même date à 130 ans de différence de l'exposition.
110,
pardon.
Le compte est bon, ou presque. Merci mille fois.
Merci.